Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, c'est Thibault Lambert pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Marie Lemlin est une enfant illégitime. À 29 ans, après des années à se sentir malheureuse sans savoir pourquoi, elle découvre que son père n'est pas son père biologique. Elle est en réalité née d'une union entre sa mère et un autre homme, une union restée secrète pendant toute sa vie. Marie a aujourd'hui 42 ans et dans un livre paru au mois d'octobre, elle raconte ce qu'elle décrit comme le syndrome du bâtard, ce sentiment de malaise et de honte qui l'a longtemps habité et son combat pour s'en débarrasser. Marie Lemlin se confie dans Code Source au micro d'Ambre Rosala.
Marie Lemlin m'accueille chez elle en Belgique, où elle vit depuis 3 ans. Elle est grande, mince, avec des yeux très bleus et des cheveux blonds coupés au carré. Elle habite un joli appartement de Bruxelles avec ses 2 enfants, mais elle me raconte que c'est en France qu'elle a grandi. Marie est née le 3 décembre 1978 à Rouen, en Normandie, où elle a été élevée par ses parents, avec ses 2 grands frères de 8 et 9 ans de plus qu'elle.
Je grandis dans un milieu plutôt petite bourgeoisie de province, avec des parents professeurs de médecine et de droit, et voilà, dans un foyer plutôt stable, une jolie maison. Je ne manque d'absolument rien en termes de besoins matériels. Par contre, je sens qu'au niveau affectif, il y a une espèce de vide entre ma mère et moi et dans la dynamique familiale entre mes parents, mes frères et moi, comme si quelque chose était un peu enrayé et avait du mal à se mettre en route. Ma mère et moi, on est, pour la plupart des gens de l'extérieur, on est proches, c'est-à-dire qu'elle me prend sur ses genoux, elle s'occupe beaucoup de moi, elle vient me chercher à l'école, elle m'aide à faire les devoirs, mais moi, je sens physiquement entre elle et moi une distance, comme un froid. J'avais l'impression que c'était la Sibérie avec ma mère. Quelque chose qui nous sépare plus que qui nous rapproche.
Marie me raconte que parfois, elle a l'impression que sa vie de famille est comme une pièce de théâtre. Qu'ils répètent tous un rôle, mais qu'il n'y a rien de vrai dans leur relation. Mais elle ne dit rien de son mal-être qui s'installe, et à l'âge de 8 ans, elle développe des troubles obsessionnels compulsifs. Les tocs se calment à l'adolescence, mais Marie souffre d'agoraphobie et fait souvent des crises d'angoisse. Après son bac, elle s'installe à Paris pour faire des études de littérature et de langue. En août 1997, elle passe des vacances en famille, 1 an après être partie de chez ses parents. Et son mal-être revient. À son retour à Paris, Marie développe des troubles alimentaires.
Je mangeais le matin et puis après je mangeais plus. Je mangeais une courgette que je partageais une partie le midi et une partie le soir. Donc j'ai perdu du poids très très vite. Et donc je traînais un peu ma grande carcasse comme ça que je cachais sous des vêtements assez amples. Je l'ai dit assez tardivement à mes parents. Et je l'ai dit parce qu'une amie m'a conseillé d'aller consulter un nutritionniste parce que je commençais à avoir des malaises et à avoir tout le temps froid et à pas me sentir tout à fait bien. Et surtout, psychiquement, je me sentais mal. Je sentais que quelque chose essayait de remonter à ma conscience et que je, de toutes mes forces, mais contre mon gré presque et contre ma santé, je le repoussais et que je m'enfermais dans quelque chose qui devenait très très toxique pour moi, dont je pouvais ne pas me remettre. Et j'ai eu très peur de disparaître tout à fait. Donc j'ai accepté de rencontrer cette nutritionniste qui m'a tout de suite diagnostiquée comme étant anorexique et qui m'a beaucoup beaucoup accompagnée. en m'aiguillant sur la piste d'une raison qui soit peut-être familiale, ou en tout cas d'une souffrance que je n'arrivais pas à exprimer autrement qu'en montrant un aspect de moi cadavérique. Et donc, ça a été la première à me permettre d'accepter et de reconnaître qu'il y avait une souffrance qui était là depuis assez longtemps, et que tous ces troubles que j'avais pu enchaîner depuis mes 8 ans étaient peut-être dus à une bonne raison. Il fallait juste trouver laquelle.
Marie reprend du poids, mais les troubles alimentaires ne disparaissent pas complètement. Elle va voir un psychologue pour essayer de comprendre pourquoi elle va si mal, mais la première séance ne se passe pas bien et elle n'y retourne plus. À 20 ans, Marie trouve son premier travail en tant que bookeuse dans le milieu de la mode. Pendant plusieurs années, elle change régulièrement de poste, déménage souvent et a du mal à trouver une stabilité. Puis elle rencontre Mathieu quand elle a 27 ans. Et un an plus tard, Marie apprend qu'elle est enceinte d'une petite fille.
Je vis la grossesse plutôt bien. C'est après la naissance que c'est compliqué, parce que je regarde ce bébé que j'aime plus que tout, forcément. Et je ne sais pas si je vais réussir à créer un lien avec elle. C'est terrible quand vous êtes avec un homme que vous aimez, vous décidez de faire un enfant, tout se passe bien, j'accouche d'un bébé en pleine santé, et je me sens tirée en arrière, comme si créer du lien avec elle pouvait être dangereux pour moi et pour elle. Et tout de suite, je me projette dans un effet miroir assez troublant dans la relation que moi j'ai avec ma mère, mais je panique parce que je réalise que je ne sais pas quel est notre lien à ma mère et moi, et que je ressens de nouveau ce froid, et il est impossible que je reproduise quelque chose qui m'a finalement fait souffrir. Donc je voulais absolument sauver ce rapport à ma fille, cette relation à construire. Je ne voulais pas lui transmettre tout ce que moi j'avais subi.
Sur les conseils de son compagnon, Marie accepte d'aller voir une thérapeute. Elle lui recommande de creuser du côté de sa famille pour savoir s'il n'y a pas un secret qui pourrait être à l'origine de son mal-être depuis toutes ces années. Sa marraine, dont elle est très proche, lui conseille d'en parler à sa mère. En juillet 2008, quelques mois avant ses 30 ans, Marie déjeune donc avec sa mère dans un restaurant parisien, sans vraiment savoir quelles questions lui poser.
Je me sens comme une petite fille qui a très très peur de dire une bêtise ou de faire une bêtise. Et j'ai l'impression que je vais me faire sermonner. Parce qu'on n'a jamais eu ce genre de conversation avec ma mère, parce que je la sens loin de moi et que j'ai l'impression que c'est de ma faute. Donc je suis très très stressée. Finalement, je m'ouvre à ma mère et je lui dis « Je crois que peut-être il y a des choses que tu peux me dire qui expliqueraient mon mal-être. » Elle me dit qu'elle ne voit pas de quoi je parle quand je dis « Mais il y a forcément quelque chose. » Et donc, je la vois vraiment rester sur ses positions et ne rien lâcher. Et après avoir posé plusieurs questions, je crois que j'ai dû balayer à peu près tous les secrets de famille possibles et inimaginables. J'ai d'abord eu peur qu'elle ait été agressée par quelqu'un, que moi j'ai été agressée par quelqu'un. Je me suis dit peut-être qu'il y a eu un enfant mort-né, ça peut être plein de choses, un secret de famille. Et en fait, je crois que j'ai tout dit, sauf l'enfant illégitime. Et tout à coup, je me suis dit, mais en fait, je pense que c'est moi le sujet de ce secret. Et donc c'est moi qui ai verbalisé le fait de lui dire, je ne suis pas la fille de mon père. Et elle n'a eu qu'à répondre qu'effectivement c'était bien ça. Et ça a été un soulagement hallucinant parce que tout à coup, j'ai refait le film depuis l'enfance et tout à coup, j'ai compris que tout ça avait une raison et que je n'avais pas rêvé, que je n'étais pas givrée, que je n'avais pas imaginé tout ça. Et donc, j'ai été très soulagée. Dans ma tête, intellectuellement, je suis la fille de mon père, dont je porte le nom, qui m'a élevée. Ce n'est même pas un sujet. En revanche, je suis aussi la fille d'un autre. C'était absolument fondamental pour moi de savoir de qui j'étais née, quelle avait été l'histoire, est-ce que ça avait été une conception sous contrainte, qu'est-ce qui s'était passé en fait, qu'est-ce qu'il y a juste avant moi qui explique que je sois au monde.
Comme Marie insiste pour connaître l'identité de son père biologique, sa mère finit par lui donner un nom et un prénom. Mais elle lui demande de garder le secret. Marie en parle quand même à son conjoint et à une amie, mais elle ne dit rien à sa famille, ni à son père, ni à ses frères, pendant près d'un an. Jusqu'au jour ou rongée par le secret, elle finit par se confier à la compagne d'un de ses frères. Sa belle-sœur en parle au frère de Marie, qui décide de révéler le secret à toute la famille.
J'ai attendu que la bombe explose, et alors en fait, il ne se passe rien. Rien. Mon père m'a téléphoné et n'y a pas cru. Donc j'ai tout de suite pris les devants en lui proposant de faire un test ADN qui a acté le fait que nous n'avions pas de lien biologique. Et hormis ça, il s'est rien passé. Personne n'est venu me chercher pour me demander comment moi j'allais. Donc personne ne m'a contacté. J'en ai parlé avec mes frères et puis très vite on n'en a plus parlé. Et je voyais bien que on me faisait comprendre, non pas que ça n'existait pas, mais que bon, on n'allait pas non plus en faire toute une histoire. J'avais un père, basta. Et moi, je n'ai pas su exprimer que je me sentais si mal, parce que je traversais quelque chose, un trouble de l'identité généralisé, où tout à coup, je ne savais plus qui j'étais. J'ai tout à fait perdu pied, et j'ai eu l'impression que tout le monde me lâchait, c'est-à-dire que j'avais plus rien, plus personne. Et donc, j'ai pris la décision de m'éloigner de ma famille, de mon plein gré, pas par envie, mais parce que c'était moins pire que de retourner dans ma famille et de faire semblant que rien ne s'était passé. Ça, c'était absolument impossible. Une fois que le secret a été révélé à tout le monde, je ne pouvais pas venir avec mon conjoint, notre fille, et faire comme si ça n'existait pas, puisque moi, ça avait fait trembler toute mon existence. Et donc, sans que ça fasse de bruit, j'ai quitté ma famille.
Marie et son compagnon Mathieu finissent par se séparer, mais ils restent en très bons termes. Marie tente de retrouver son père biologique et cherche régulièrement son nom sur Internet. Jusqu'à ce qu'un jour, après 3 ans de recherche, elle tombe sur une adresse mail qui semble correspondre.
Et j'envoie un message un peu comme une bouteille à la mer sur cet email en disant « Voilà, j'ai ce nom qui m'a été donné par ma mère, j'aimerais rentrer en contact avec cette personne, est-ce que ce serait possible? Est-ce que vous pouvez m'aider ?» J'ai juste une réponse qui me demande pourquoi, pas bonjour ni rien. Et donc j'explique vite fait que cet homme et ma mère ont eu une histoire et qu'il est peut-être possible que je sois née de cette histoire et que je veux juste avoir la confirmation. Et plus de réponse. Et quelques années après, c'est sur Facebook que je retrouve la trace de cet homme et donc que je contacte. Et cette fois, je vois une photo. Et je suis troublée parce que je trouve qu'il y a quelque chose... Moi qui ne m'étais jamais sentie physiquement connectée à mon père, pas vraiment à mes frères non plus, tout à coup j'ai eu une espèce de choc. Ça paraissait possible en fait. Et cet homme m'a répondu. Bon, il y a eu quelques échanges un peu houleux, parce que imaginez-vous, une fille vous contacte en vous disant peut-être que je suis votre fille. Bon, ça doit pas être simple à entendre non plus. Donc j'y allais vraiment sur la pointe des pieds. Et donc finalement, j'ai obtenu un rendez-vous avec cet homme. Moi, bon, à l'époque, je vivais à Paris et il me dit « Mais le seul problème, c'est que je vis à New York. » Et donc j'ai très vite répondu « Mais il n'y a aucun problème. » Donc j'ai très très vite trouvé un billet pas cher pour New York. J'ai cassé ma tirelire et j'ai dit « Ok, on se retrouve alors. » dans 3 semaines à New York.
Le 29 mars 2013, Marie se rend dans un bel hôtel en plein cœur de Manhattan pour rencontrer à 35 ans son père biologique pour la première fois.
Je suis arrivée dans cet hôtel très grand, donc je me suis un peu perdue dans les couloirs et puis en fait j'ai emprunté une allée qui menait vers le restaurant où on avait rendez-vous. Et puis je l'ai senti, cet homme en fait, à un moment donné sur ma droite. Il était dans une petite alcôve, il est grand, très fin, très classe. Physiquement, je me reconnais, c'est-à-dire qu'on a la même silhouette. Et je le trouve très impressionnant. Et ça a été très vite, on s'est pris dans les bras. Je n'ai eu aucun mouvement de recul, je n'ai eu aucune hésitation. J'ai eu l'impression de retrouver quelqu'un que je connaissais. Et puis, donc, j'ai écouté cet homme me raconter, se souvenait très bien de ma mère, et... me déroulait un peu son parcours à lui, qui faisait souvent, de manière assez étonnante, écho au mien. J'ai réalisé qu'on avait vécu à 150 mètres l'un de l'autre pendant 2 ans. J'aurais pu le croiser matin et soir en allant bosser. J'ai réalisé que j'avais fait des choix professionnels parfois qui étaient assez proches des siens, dans des univers où il y avait des similitudes, en fait. Et puis, voilà, on s'est quitté au bout de 3 heures et Ce que je n'avais pas anticipé, c'est qu'il m'a proposé qu'on se revoie tous les jours pendant mon séjour. Et donc, cet homme m'a emmenée au musée, dans des restaurants, me promener. C'est comme si vous recolliez toutes les parties de votre puzzle. Je ne me suis pas dit, on va se retrouver maintenant, construire une relation, ça va être mon père. C'était pas du tout ça. C'était, voilà, je viens de là. Et ça va. Je suis née à ce moment-là, en fait. Je suis née parce que j'ai... Il n'y avait plus de secrets. Et en fait, tout à coup, les pièces se remettaient toutes en place.
À son retour en France, Marie reprend contact avec sa mère pour lui proposer de se rencontrer tous les trois avec son père biologique. Les parents biologiques de Marie se revoient. Et 35 ans après la naissance de Marie, ils retombent amoureux. La mère de Marie quitte son conjoint et s'installe avec lui. Mais Marie ne parvient pas pour autant à trouver sa place.
Normalement, on devrait se dire, mais voilà, c'est super, mes parents biologiques se sont retrouvés. Même là, alors que mes deux parents biologiques sont ensemble, je n'ai pas d'existence dans leur vie. Pourtant, je pourrais tout à fait intégrer, je pourrais très bien aller les voir, je pourrais créer des liens avec eux. Eux ne cherchent pas à créer du lien avec moi. Les rares tentatives que j'ai pu faire, on me dit que c'est compliqué. Et en fait, je n'existe pas dans cette vie-là. Parce que les conditions même de ma conception et le secret qui l'ont entouré pendant tant d'années me maintiennent dans une espèce de sombre pièce au fond du couloir. On ne doit pas aller me chercher. Alors qu'il n'y a aucune raison aujourd'hui de me cacher, il n'y a plus de secret, je reste la bâtarde.
Marie ne veut plus avoir honte. Elle se lance à la recherche d'autres enfants illégitimes et rencontre de nombreuses personnes qui ont vécu les mêmes sentiments de honte, de culpabilité et d'abandon. Elle apprend aussi que son nouveau compagnon, Vincent, n'est pas non plus le fils biologique de son père. Elle décide alors de lancer, en 2018, Bande de bâtards, un site internet qui compile une centaine de portraits d'enfants illégitimes comme elle.
Je me suis rendu compte qu'on était suffisamment nombreux pour avoir une bonne raison d'en parler et de le marteler, ce sujet, et de dire c'est pas un sujet isolé, ce sont des vraies considérations. Et moi, ça m'a soignée, parce que quand personne veut vous reconnaître et que vous avez des semblables qui vous disent mais j'ai tellement vécu la même chose et je comprends tellement, ça existe, alors on est reliés et donc vous vous sentez pas tout seul. Donc je vais bien parce que je suis très très entourée finalement par toute cette bande invisible qui m'écrit, à qui je réponds. Et voilà, on forme un groupe, une bande qui me porte et qui, j'espère, permettra à d'autres d'être portés aussi.
Ambre, l'histoire de Marie qu'on vient d'entendre est troublante. Aujourd'hui, elle ne parle donc plus à aucun membre de sa famille ?
Non, elle n'est en contact ni avec ses parents, ni avec son père biologique, ni avec ses deux frères. Ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle ne pouvait pas faire comme si cette histoire n'existait pas. Elle avait besoin d'en parler avec eux, mais eux ne sont toujours pas prêts à en parler avec elle et à l'accepter complètement. Donc, ils se sont éloignés de manière assez naturelle, finalement. Ça la rend forcément un peu triste, mais ce qu'elle m'a dit, c'est que pour elle, aujourd'hui, sa famille, c'est ses deux enfants et leurs deux pères, Mathieu et Vincent, puisque même si aujourd'hui ils sont séparés, ils habitent tous dans le même quartier et Marie est restée très proche d'eux.
Est-ce que son père biologique était au courant qu'il avait une fille avant qu'elle ne commence à le contacter ?
Non, d'après ce que m'a dit Marie et d'après ses réactions quand elle l'a contacté, il n'était pas au courant. Ça explique d'ailleurs sûrement pourquoi il y a eu quelques échanges houleux entre eux, comme l'a dit Marie, et pourquoi il a mis un peu de temps avant d'accepter de la rencontrer. Parce qu'en fait, il s'est passé presque 2 ans entre le moment où Marie l'a contacté sur Facebook et le moment où il a dit qu'il était d'accord pour qu'ils se rencontrent.
Tu l'as dit, Marie a 2 enfants désormais, puisqu'elle a eu un petit garçon qui a 6 ans aujourd'hui, avec Vincent, dont elle est séparée. Est-ce qu'elle a déjà raconté son histoire à ses enfants ?
Oui, elle en parle à ses enfants. Ninon, aujourd'hui, elle a 15 ans et Marie lui a tout dit de son histoire. Elles en parlent beaucoup et d'après ce que m'a dit Marie, sa fille est plutôt en colère vis-à-vis de ses grands-parents et de ses oncles. Elle est triste aussi parce qu'elle n'a aucune relation avec eux. Et en fait, Marie m'a dit que comme elle, Ninon ne comprend pas pourquoi les origines de Marie restent taboues dans leur famille. Pour elle, c'est très important qu'ils puissent en parler tous entre eux parce que ça fait partie de leur histoire à tous. Et elle ne comprend pas que ce soit pas possible parce qu'au final, dans cette histoire, il n'y a rien de grave.
Merci Ambre Rosala et merci à Bérangère Le Petit pour son aide. Je rappelle les références du livre de Marie Lemland, Le syndrome du bâtard, c'est paru chez Flammarion. Code Source est le podcast quotidien du Parisien, disponible sur toutes les plateformes audio. Cet épisode a été produit par Clara Garnier-Amouroux, réalisation Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. Vous pouvez aussi nous écrire codesource@leparisien.fr.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.